Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello à tous, ici Pauline Agneau et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Durant une heure environ, je déconstruis avec elles leur parcours, leurs principes de vie, leurs grandes décisions, avec pour objectif d'apprendre de ces mentors virtuels et aussi de vous aider à vous développer afin que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'accueille sur le gratin Cédric Wattine, CEO du groupe Fogepack, spécialisé dans les fournitures de packaging et créateur du podcast et de la méthode des outils du manager. Vous pourrez retrouver Cédric sur LinkedIn, bien sûr, ou simplement via son podcast, donc outils du manager avec un S à outils, ce que je vous invite à faire. Je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode et sur le blog du gratin. Et si vous avez une question, si vous avez une demande particulière, Cédric a fait la folie, messieurs, dames, de nous laisser son mail. Donc foncez, les amis, vous le retrouverez à cédric@outils avec un S du manager.com. Gare à toi, Cédric. Alors pourquoi avoir invité Cédric sur le podcast ? Eh bien tout simplement parce que j'ai découvert il y a quelques mois son approche et je l'ai trouvée particulièrement percutante, simple, pleine de bon sens, sans jargon, accessible. On sait tous que le management est un art extrêmement difficile, je l'ai vécu moi-même et je peux vous dire à la dure en partant de très très loin. J'ai pensé qu'une petite formation avec Cédric vous ferait plaisir et pour tout vous dire, j'avais encore 2-3 trucs à apprendre. On a donc parlé un peu de son parcours et là, mesdames et messieurs, scoop, on ne naît pas bon manager, on le devient. Même Cédric, désormais une référence en la matière, a fait son lot de bourdes. Il nous l'explique d'ailleurs avec beaucoup d'humilité, nous parle de ses erreurs et de en quoi elles lui ont permis d'avoir une révélation en quelque sorte sur le fait qu'il ne pourrait pas imposer sa loi à ses collaborateurs sans apprendre à vraiment travailler correctement avec eux. On a ensuite enchaîné sur mille et une questions sur le sujet du management, par exemple, comment faire pour changer de méthode et devenir bon manager quand on a déjà, en quelque sorte, si je puis dire, un passif ? Faut-il faire un grand soir, grand matin et en parler à ses collègues, faire une réunion d'équipe ? Est-ce qu'il faut y aller par étapes ? Cédric nous dit tout. Comment réussir à déléguer quand on n'a pas d'appétence pour ça ? Un mot qui revient chez de nombreux entrepreneurs et qui a été un vrai problème pour moi. Quand on aime faire, on n'aime pas forcément faire faire, souvent l'inverse d'ailleurs. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça s'apprend. Comment communiquer avec des personnalités différentes et gérer les conflits internes à une équipe, ce qui arrive très souvent. Quels sont les outils et ressources que Cédric recommande pour progresser sur ces aspects très humains. Autant de sujets qui serviront, je pense, à des dirigeants de PME, tout autant qu'à des entrepreneurs naissants ou, pourquoi pas, aussi à des salariés de grands groupes. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Cédric Wattine. Salut Cédric, bienvenue sur Le Gratin.
Bonjour Pauline, je suis très content d'être
moi
là
aussi,
avec
moi aussi, à distance, mais ça va très bien se passer. Écoute Cédric, j'ai plein de questions pour toi parce que, pour tout dire, j'ai commencé par laisser un message sur mon Instagram aux personnes qui me suivent pour leur demander si elles avaient des questions sur management. Et alors je te préviens, j'ai reçu des centaines de messages. Donc c'est clairement un sujet qui parle et donc on va rentrer là-dedans. Mais avant de faire ça, si ça te va, je voulais quand même commencer par parler un peu de toi, comprendre qui tu es. Et donc si je ne me trompe pas, tu es à la tête de Fogepack, qui est une boîte dans le secteur du packaging.
En fait, ce sont deux sociétés.
Ouais. Et comment est-ce que tu t'es retrouvé là-dedans ? Est-ce que tu peux me faire un petit récap un petit peu de ta carrière ? Comment est-ce que tu es arrivé à la tête de cette entreprise, de ces entités ?
En fait, moi j'ai fait une école de commerce et j'ai terminé par une spécialisation audit et contrôle de gestion internationale. Et avant, j'avais fait des études à l'université de culture et communication pour apprendre les ressources humaines, etc. Et suite à ça, j'ai commencé à travailler dans un grand groupe international et pendant quelques années, et j'étais chargé de faire les audits post-acquisition du groupe et puis de mettre en place le reporting. Okay. C'était mon job, donc je voyageais pas mal à l'étranger, j'essayais de comprendre comment fonctionnaient les entreprises que le groupe avait rachetées, et voilà, mon job ensuite, c'était d'animer les comités de direction autour autour des performances de ces entreprises. Okay. Et puis, assez vite, j'ai eu envie de voler de mes propres ailes, de reprendre la direction d'une filiale, c'était ma première idée. Ça a pas bien marché, puisque dans ce groupe on donnait plutôt ces postes-là aux gens qui avaient plutôt un background commercial, ce qui n'était pas mon cas. Donc j'ai commencé à chercher en dehors de l'entreprise. Mon idée, c'était d'être assistant pour un propriétaire de PME, et puis d'être un petit peu la personne, voilà, qui aurait pu reprendre son entreprise. Et puis, il s'est passé un accident de la vie, c'est que mon beau-père de l'époque a perdu son fils, et mon beau-père dirigeait une entreprise. D'accord. Et donc, il m'a appelé un petit peu au secours en disant, je sais pas quoi faire, est-ce que tu peux venir m'aider au moins un petit peu dans la gestion de l'entreprise? Et ensuite, peut-être, on pourra parler de la transmission de cette entreprise. C'est comme D'accord. ça que ça a commencé.
D'accord, hyper intéressant.
Pour moi, la vie de chef d'entreprise. Et donc, à 30 ans, à peu près, je suis rentré dans l'entreprise en tant que, grosso modo, directeur général, un peu par intérim, juste pour voir si ça se passait bien. Et puis ça s'est très bien passé. Finalement, j'ai racheté plusieurs de mes concurrents avec qui je me suis associé pour finalement monter un petit groupe d'entreprises qui s'appelle Fogepac. Ouais. Et en fait, Fogepac, ça veut dire fourniture générale pour le packaging. Et en gros, il y a deux activités. Il y a une activité de distribution de consommables pour le packaging. Ouais. Et une activité de vente de logiciels et de matériel de D'accord. découpe, de création d'emballage, etc. Donc vraiment des activités très, industrielles et de niche.
Oui, mais bon, souvent, c'est ce genre de PME qu'on ne met pas énormément en avant en France et qui, en réalité, est le maillage fort, en fait, de l'économie, quoi. Et là-dessus, juste une question, ça m'intéresse, parce que quand tu arrives, tu es un peu catapulté d'une certaine manière par ton beau-père DG, même par intérim, de la boîte. Comment ça s'est passé les premiers mois? Qu'est-ce que tu as commencé par faire? Parce que c'est pas évident quand même d'arriver à un poste comme ça dans une entreprise déjà existante.
Non, c'est sûr. Il a fallu un petit peu que je fasse ma place dans une entreprise qui était un petit peu traditionnel dans sa gestion, etc., qui avait besoin de remise en question assez forte. Et je dirais que je suis pas forcément tout à fait fier de la manière dont je suis arrivé, puisque moi, en fait, je venais d'un grand groupe international. Ouais. J'avais une formation, financière et stratégique. J'étais plutôt bon dans ce domaine-là. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs de constituer le petit groupe, de pouvoir parler avec les banquiers, de montrer quelle pouvait être notre stratégie dans l'entreprise, etc. Mais disons qu'à l'époque, je dirais que la dimension humaine m'avait pas forcément... c'était pas forcément ma première de mes...
priorité, quoi.
C'était à la fois pas ma priorité et je savais pas très bien comment faire. C'est-à-dire que moi je suis comme tout le monde, dans la vraie vie j'ai des amis et ça se passe très bien, mais dans le boulot ça peut être plus compliqué, surtout quand on est amené à diriger. Je dirais pas que ça s'est mal passé parce que j'avais des équipes qui étaient assez formidables, mais à un moment, j'ai une grosse remise en question à ce niveau-là, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'avais beau être bon en stratégie, j'avais beau être bon en optimisation des processus, j'avais beau gérer mon temps de la manière la plus optimale possible, il y avait quand même quelque chose qui manquait, et c'était comment on fait quand on doit manager des humains, des hommes et des femmes, comment on fait pour le faire, je dirais, de manière à la fois efficace et aussi en les respectant.
Tu as eu un peu, d'une certaine manière, une révélation, mais En fait, ce que je ne savais pas de toi, c'est que donc t'étais pas un bon manager né. Ça fait quand même assez plaisir de l'entendre.
Bah oui,
je comprends
non,
bien.
Non, pas du tout,
et donc tu t'es d'une certaine manière un peu planté en arrivant. Enfin, en tout cas, ça s'est pas passé parfaitement. Et c'est à ce moment-là, du coup, ta prise de conscience, et j'ai te demandé justement d'où t'étais venue un peu cette passion et ton expertise sur le management. Donc, j'imagine beaucoup de terrain, mais voilà.
En fait, mais il y a quand même eu exactement ce que tu dis, il y a une révélation. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai quand même fait le constat que j'avais beau faire une réunion où je réunissais tous les membres de l'entreprise en début d'année pour leur expliquer quelle allait être la stratégie, comment on allait évoluer sur notre marché, etc. Le constat que je faisais en fin d'année, c'était que ça s'était pas tout à fait passé comme je m'y attendais. Et vraiment, à un moment, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai la bonne stratégie, j'ai plutôt des gens qui sont des bons professionnels, qui ont envie de bien faire, et pourtant, ça marche pas. Et à ce moment-là, en fait, en plus, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées en même temps. J'avais en plus intégré des sociétés qui étaient des sociétés concurrentes.
Oui.
Donc, j'avais aussi des problèmes de mariage de culture d'entreprise, tu vois. Et puis, d'essayer de faire collaborer des gens quand même qui initialement étaient des concurrents. Donc, et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'au même moment, je ressentais le besoin de bosser mon anglais. Et donc, j'ai commencé à découvrir les podcasts. Et à l'époque, il y avait plutôt des podcasts américains, pas tellement de podcasts en français.
C'était en quelle année? Vers quoi? 2009, 2010?
Oui, alors je pense que l'écoute des podcasts, je voudrais pas dire de bêtises, mais c'était peut-être 2007.
Oui, hyper précurseur.
Ouais, et en fait, je suis tombé sur un podcast qui s'appelait Manager Tools, qui s'appelle toujours Manager Tools, donc ça veut dire outil du manager en français, et qui était, je dirais au début, un peu une discussion entre deux consultants qui parlaient de comment faire quand on n'est pas trop doué, je dirais, au niveau justement relations humaines pour quand même réussir son management. En gros, c'était ça le truc. Et c'était très américain, mais moi ça m'intéressait. En plus, je bossais mon anglais tout en tondant ma pelouse, donc j'étais content. Et puis à un moment, ça m'a fait tilt. En fait, je suis un peu lent en général, me rendre compte des choses. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, ce qu'ils disent, il faudrait peut-être que j'essaye de le mettre en place, voir comment ça pourrait marcher dans ma boîte. J'ai pas fait le lien tout de suite, mais à un moment, j'ai commencé à mettre en application. Et là, pour moi, vraiment, ça a été une révélation. C'est-à-dire que vraiment, les choses ont commencé à changer. Et je dirais qu'en un an, quasiment, j'avais mon processus, j'avais mon système de management, et les choses ont, les relations avec les personnes dans mes boîtes ont changé, les rumeurs,
oui, le côté mauvaise ambiance, machin. C'est vrai qu'en fait, on pense souvent que le management, en fait, c'est juste faire en sorte que les gens soient les plus efficaces possibles. Mais en fait, il y a plein d'effets collatéraux, comme il y a des guéguerres internes, il n'y a pas d'esprit d'équipe commun. En fait, tout ça, ça n'est que, je trouve, un révélateur du mauvais manager, quoi.
Absolument. Et je dirais même que le mauvais manager en lui-même, le fait qu'il soit mauvais, c'est juste un symptôme. C'est-à-dire que, alors, je sais que très souvent, en fait, quand on discute de management avec, avec des personnes en général, la première chose qu'elles vont faire, c'est elles vont nous expliquer à quel point leur boss est mauvais, sans se dire mais est-ce que elles sont en management, est-ce que ça va. Et d'une manière générale, moi j'ai pas rencontré de manager fondamentalement épouvantable ou qui ont envie de tyranniser les gens, etc., etc. En général, c'est juste un manque de connaissances. Et surtout un manque de d'outils. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment convaincu dans le processus que j'ai eu de mise en place de mon management, c'est que finalement, t'as beau connaître tous les poncifs sur le management. En ce moment, par exemple, on parle beaucoup de bienveillance et on pourra en parler de la bienveillance. Mais disons que ça suffit pas. Ça, c'est l'intention. Et très souvent, en fait, ce que tu observes, c'est une énorme différence entre l'intention du manager, qui est plutôt quelqu'un de bien et quelqu'un de normal, et ses actions sur le terrain. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans l'approche des Américains, c'est qu'elle était très pragmatique et elle était très fondé sur les outils. C'est-à-dire que c'est en passant à l'action qu'en fait, tu vas réussir à changer ta vision des choses. Et que tu vas réussir à la fois être efficace et respectueux des personnes, parce que très vite, tu vas te rendre compte que c'est en étant respectueux des personnes que tu vas obtenir de la performance.
Et une question que j'avais pour toi, Cédric, ça m'intéresse beaucoup parce que je pense que, à mon avis, hein, pas mal de personnes sont dans ce cas-là. Tu veux changer, tu veux te dire, tu réalises que tu es un mauvais manager, tu as un peu ta révélation comme toi. Comment est-ce que tu mets en place ce changement? Comment toi tu l'as mis en place? Est-ce que tu pourrais me décrire cet avant-après dans ta boîte? Parce que j'ai l'impression que tu dis qu'assez rapidement, en fait, les choses ont évolué. Tu me parlais du gossiping, des on-dit qui avaient cessé, etc. C'est quand même pas évident, je trouve. Est-ce que tu communiques dessus? Est-ce que tu fais un peu un grand soir, grand matin en disant, entre guillemets, convoquant tes collaborateurs en disant, écoutez, faut que je vous dise, pendant les 10 dernières années, j'ai été un mauvais manager sur tel et tel point, ça va changer? Ou est-ce que c'est de manière hyper subtile? Comment tu fais ça?
C'est les deux en même temps. En fait, il faut que tu peux avoir le discours que tu veux en entreprise, mais en fait, le discours, c'est pas, ça sert, enfin, tu peux penser ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux, ce qui va compter, c'est ce que tu fais. Et les gens vont te juger sur ce que tu fais. Et donc, moi, mon conseil, c'est effectivement de mettre en place un premier outil du management, qui maintenant est bien connu, dont on entend parler assez régulièrement, qui s'appelle le one-on-one, le one-to-one ou le un-à-un en français. Et d'ailleurs, t'en parlais, il me semble, dans un de tes podcasts où tu faisais un coaching sur une...
Oui, tout à fait. Traditionnellement, j'appelais ça des points. Et en fait, les gens dans mon entreprise se foutaient de ma gueule à un moment donné parce que je faisais des points avec tout le monde.
Peu importe le nom, en fait, le 1-1, c'est quoi? Selon outil du manager, le 1-1, c'est quoi? C'est un entretien d'une demi-heure toutes les semaines avec chacun de tes collaborateurs, avec chacune de tes collaboratrices. Et donc, alors, pourquoi ça marche, ce truc-là? Ça marche parce que tu vas t'adresser de manière individuelle à la personne. Tu vas pas faire du collectif. Même si chacun et chacune de tes collaborateurs vont y participer, tu vas faire quelque chose qui est assez rare en entreprise, c'est que tu vas offrir du temps à ton collaborateur. Et pour développer la confiance, entre êtres humains, La plus grande richesse qu'on ait à accorder à n'importe qui, c'est du temps. Donc, déjà, en faisant cette chose qui est de lui accorder du temps, tu vas un petit peu, envoyer un signal fort envers cette personne. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que non seulement tu vas lui accorder du temps dans ta semaine, c'est-à-dire que c'est une demi-heure. Alors, une demi-heure, c'est 3,5 jours par an.
Oui, c'est à relativiser.
Donc, ça relativise et il faut toujours regarder ça du côté de ton collaborateur plutôt que de ton côté à toi. Toi, si tu as 8 collaborateurs, ça va représenter 10% de ton temps, ce qui n'est pas énorme non plus, mais c'est quand même 10%. Mais ce qui va être très fort dans ce que tu vas proposer à ton collaborateur, à ta collaboratrice, c'est que tu vas lui dire « mais en plus, on va se voir chaque semaine ». Donc en fait, tu vas lui promettre du temps, mais en plus du temps à venir. Ce qui est totalement différent de dire, bon, écoute, là, tu vas pas bien ou t'as pas des bonnes performances, donc on va te voir 5 minutes et je vais te remonter les bretelles.
Ou à la fin, pour l'entretien de fin d'année uniquement, quoi.
Oui, voilà. Alors, on pourra reparler des entretiens de fin d'année parce que je trouve qu'on sait assez souvent.
C'est clair.
Et donc, concrètement, en fait, ce que tu fais, si tu veux mettre en place un management efficace, c'est de mettre en place ce premier outil. Avec tes collaborateurs directs, c'est-à-dire pas avec les collaborateurs de tes collaborateurs, uniquement avec les personnes qui hiérarchiquement te sont rattachées.
Et aussi une question avec toi, je suis désolée de t'interrompre, mais je trouve ça très intéressant. C'est uniquement avec tes collaborateurs directs, c'est-à-dire tes N-1, les gens que tu manages, est-ce que ça peut être aussi des personnes avec lesquelles tu collabores, qui sont dans d'autres équipes? Je prends un exemple, tu es... dans une équipe, je sais pas, tu es dans une équipe marketing, dans un grand groupe, tu vas forcément collaborer beaucoup avec l'équipe création, par exemple. Est-ce que tu mets en place aussi un point avec cette personne-là, sachant qu'elle t'est pas rattachée hiérarchiquement, tu vois?
Oui, tu peux, effectivement. Alors, c'est pas tout à fait le même entretien, c'est pas tout à fait la même structure d'entretien, mais oui, absolument, tu peux. Maintenant, je sais que le temps des managers en France est compté. Moi, j'ai fait un sondage auprès de 450 ou je sais plus 500 managers. J'aurais demandé c'est quoi votre problème principal. La grosse c'est pas l'unanimité, mais la très grande majorité des gens me répondent le manque de temps. Donc oui, je suis tout à fait en faveur de faire aussi des 1-1 avec les responsables des services avec qui tu collabores, mais je dirais si on devait mettre une priorité là-dedans, avant tout, ton job de manager, c'est d'avoir une équipe qui performe. Et donc, la priorité, ce sont tes collaborateurs.
Donc tu mets en place le 1-1 et toi, ton expérience, du coup, c'est quand tu as commencé à mettre ça en place, parce que du coup, j'aime bien filer la métaphore avec ton exemple concret, tu n'as même pas vraiment eu besoin de communiquer sur le fait qu'il y avait eu un changement de paradigme. C'est plus que naturellement, comme tu as mis ça en place, les choses ont évolué, c'est ça?
Bien sûr. Oui, parce qu'en fait, c'est un acte fort hein, quand tu fais ça. Alors moi, je l'ai annoncé en réunion d'équipe et c'est ce que je conseille en général quand je conseille des managers, c'est de démarrer par une première réunion globale simplement pour expliquer ce que c'est qu'un 1-1, pourquoi je le fais. En général, je dis c'est un point régulier, l'objet c'est de mieux collaborer ensemble, que je comprenne mieux vos problématiques, que je puisse mieux y répondre, etc. Et puis surtout, c'est de fixer au cours de cette réunion les horaires des 1-1 pour l'année à venir. C'est-à-dire on programme en avance tous les 1-1, parce que si on ne le fait pas, ça marche beaucoup moins bien.
Je pense que Google Agenda est le meilleur ami de tous les managers, quoi.
Et surtout, la fonction qui te permet de faire des réunions qui se répètent d'une semaine sur l'autre. Et là, en fait, quand tu as fait ça, en fait, tu as posé un acte fondamental en tant que manager, même si ça paraît rien, et ça va être vraiment la base de ton management. C'est-à-dire que c'est là-dessus que tu vas pouvoir transformer les choses auprès de tes équipes. Parce que tu vas pouvoir ensuite ajouter des outils à cet outil qui est le 1-1. Tu vas pouvoir ajouter le feedback, tu vas pouvoir ajouter la délégation, le coaching, etc. Mais c'est ton point de management. Et ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est symbolique. C'est perçu symboliquement par le collaborateur qui se dit dis donc, il prend du temps pour moi, mais il faut faire très attention que ça ne devienne pas un entretien de flicage. Moi, j'ai eu ce cas-là et c'est un peu mon problème quand je propose ma méthode, c'est que souvent on écoute que ce qu'on a envie d'entendre. Et c'est super, je vais faire un point avec tout le monde, comme ça je vais pouvoir bien savoir, je vais pouvoir faire du micro-management. Et c'est pas du tout l'objet de l'entretien. C'est-à-dire que l'entretien, il est construit en trois parties.
Oui, j'allais te demander.
C'est une demi-heure. La première partie, c'est mon collaborateur qui parle. La deuxième partie, c'est
donc
moi qui parle.
Donc le collaborateur doit préparer quand même le rendez-vous, entre guillemets, pour qu'on ait des choses à se dire.
Non, il fait ce qu'il veut, ton collaborateur. Tu le laisses assez libre là-dessus. Il te parle de ce qu'il veut.
D'accord.
Et la règle, normalement, c'est 10 minutes, hein, si je dis une demi-heure en trois. Et la règle, c'est que la première partie a priorité sur la deuxième, qui a priorité sur la troisième. C'est-à-dire que si ton collaborateur a décidé de parler pendant une demi-heure, eh ben toi, tu pourras pas parler et c'est pas grave. C'est pas grave parce que ton intérêt de manager, c'est d'écouter ce qu'il ou elle a à te dire. Parce que c'est ça l'intérêt de cet entretien, c'est que tu vas avoir des informations extrêmement intéressantes pour ton rôle de manager. Et donc, il ou elle parle de ce qu'elle veut, sa vie perso, ses difficultés avec ses collègues, sa paye qui est pas assez importante,
ça peut être vraiment tout
etc.
et n'importe quoi, enfin limite.
Ça peut être n'importe quoi, ouais.
Pour sa expérience.
Ça arrive. Et là où il faut être très, très vigilant quand on est manager, surtout qu'on a un profil un petit peu actif ou dominant, c'est qu'on a tendance à vouloir prendre le contrôle de l'entretien. Et il ne faut pas prendre le contrôle de l'entretien, parce que si tu commences à faire ça, tu dénatures en fait la relation de confiance que tu es en train d'établir.
Ça, c'est un problème que j'ai, moi, de parler trop en point, ça c'est évident.
Donc en fait, en général, tu vas avoir deux problèmes. Le premier problème, c'est de prendre le contrôle en disant « oui, mais bon, d'accord, bon, ok, d'accord, il m'a dit tout ce qui allait pas, il est très négatif. » Et le deuxième problème, ça va être de vouloir résoudre tous les problèmes que ton collaborateur te soumet. Parce qu'au début, quand tu vas mettre en place ce genre d'entretien, il y a des gens, ils vont te dire tout ce qui va pas. Ah oui, on est mal chauffé. Ah machin, il parle trop fort au téléphone. Ah ma paye, c'est pas terrible. Et donc tu vas vouloir absolument trouver des solutions parce que c'est notre déformation de manager qu'on est programmé pour ça. Et c'est une très bonne chose d'ailleurs. Mais là, dans cet entretien, il va falloir se retenir parce que on n'est pas capable de tout résoudre dans une entreprise. et qu'il y a des choses qui sont les priorités du moment et des choses qui ne sont pas les priorités du moment. Donc, et de vouloir résoudre tous les problèmes de ton collaborateur, d'une certaine forme, c'est une prise de contrôle de l'entretien. Et je peux te dire que, déjà, ton collaborateur, le fait qu'il ait pu exprimer les soucis qu'il avait dans son quotidien,
ouais,
c'est énorme.
C'est un moment d'empathie,
en fait,
il sent qu'il est écouté, quoi. Et il faut vraiment l'écouter, il ne faut pas juste
exactement.
Le faire, j'imagine, en mode « je te laisse parler et j'en ai rien à foutre », quoi.
Alors, la règle, c'est on est en face à face, on est à deux, on est en privé, on n'a aucun écran allumé, on a les téléphones coupés, personne ne peut interrompre l'entretien, et il y a une prise de notes. Pourquoi il y a une prise de notes ? Pour plusieurs raisons. Parce que quand tu prends des notes, bah, tu peux pas parler en même temps, donc ça évite que tu interrompes ton collaborateur à tout bout de champ. Le fait que tu notes ce qu'il te dit, ça veut dire que tu lui accordes, tu accordes une importance à ce qu'il
dit. Il a pas l'impression d'être un peu fliqué, je suis désolée de t'interrompre à ce moment-là, non ?
Si, tout à fait, donc faut être très clair à ce niveau-là avec la personne. C'est un document qui reste entre vous, il ou elle peut y avoir accès quand il veut, et c'est pas un document qui va aux ressources humaines, et c'est pas un document qui est signé.
D'accord. Oui, c'est informel quand même.
Donc, ouais, je prends des notes, c'est parce que je veux pas oublier ce que tu me dis. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles je pourrais répondre au prochain entretien, etc. Et la vertu aussi des notes, c'est que ça va te constituer un historique qui va être extrêmement intéressant quand tu vas faire l'entretien de fin d'année
c'est
avec
clair,
cette personne.
C'est clair.
Tu vas avoir, et je vais te dire, ta préparation d'entretien de fin d'année, ça va aller très très vite parce qu'il va suffire que tu relises les notes que tu avais prises en un an.
D'accord, hyper intéressant.
Donc voilà, l'acte, le premier truc que je conseille, vraiment le truc qui te met le pied à l'étrier dans ta vie de manager, c'est ce 1 à 1 que tu mets en place. Et ça a une autre vertu, parce que là, je t'ai dit les vertus du côté collaborateur, mais ce qui t'intéresse, c'est toi, ce que ça va t'apporter en tant que manager, c'est que ça va poser un rituel. C'est-à-dire qu'en fait, ton management, il va exister. C'est-à-dire que tu vas le symboliser à travers cet entretien. Ça paraît peut-être un peu ésotérique, ce que je veux dire, mais ça veut dire que toi, en tant que manager, tu vas pouvoir te dire, si j'ai fait mon 1-1, ça veut dire que j'ai fait mon rôle de manager. Parce que le problème du manager, en général, quand il me dit « je manque de temps », en fait, le manque de temps, c'est un symptôme. Je veux dire, on a tous le même temps, hein, donc on peut pas manquer de temps. On peut juste avoir un problème de priorité. Et en fait, toi, ça va t'aider parce que tu vas te dire, donc mon temps de management, c'est le 1 à 1. Donc le reste de mon temps, je peux faire autre chose.
À de la production.
Je ne suis pas dans cette relation. Et donc, c'est vachement important parce que un plombier, il voit tout de suite que son travail est bon ou pas parce que à la fin, quand il a fini, il voit si ça fuit ou ça fuit pas. Un manager, c'est quand même plus compliqué. C'est-à-dire que si je te demande, bon, Apolline, alors ton management, cette semaine, ça s'est passé comment? C'est comment tu te notes?
Ouais, bah, si t'as pas de rendez-vous, effectivement, c'est difficile. Si t'as pas de, au moins, tu sais même pas combien de temps t'y consacres, en fait. C'est ça le problème.
Exactement. Exactement. Et donc, en fait, le 1 à 1, c'est une métrique. C'est-à-dire, si j'ai fait mes 1 à 1, déjà, je suis sûr que j'ai fait quelque chose dans le domaine du management qui est utile. C'est énorme,
c'est
en fait.
C'est clair. C'est vrai que je l'ai jamais perçu sous cet angle, mais en réalité, je pense que beaucoup de managers ne consacrent pas de temps à manager. C'est-à-dire, ils travaillent, ils interagissent évidemment avec leurs équipes, mais il n'y a pas un temps qui est consacré au fait de manager, quand ils pensent.
Ouais. Exactement. Ils ont un management, moi, ce que j'appelle un management diffus, au lieu d'avoir un management compartimenté. Ça veut dire qu'en fait, dans leur journée, tout est mélangé. Ils font de la contribution individuelle et du management en même temps.
Et alors, une question pour toi, si on passe à des questions un petit peu plus générales sur le management, c'est une question qui est revenue très souvent des auditeurs du podcast, c'est quoi un bon manager ? Je trouve ça peut-être un peu vague, mais en gros, je pense que la question, c'est aussi, c'est quoi son rôle ? C'est quoi sa mission, la fonction, tu vois, dans l'entreprise du manager ?
En fait, c'est une question que je posais souvent quand je commençais des séminaires, quand j'intervenais en entreprise. Je disais aux gens qui étaient dans la salle, c'est quoi pour vous un bon manager ? C'est une question extrêmement importante. Et en fait, leur réponse, comme ça, tu demandes ça brûle pour point. Si je te pose la question, tu vas me dire probablement, c'est quelqu'un qui a de l'écoute, c'est quelqu'un qui sait fédérer, c'est quelqu'un qui a du leadership, c'est quelqu'un qui obtient des résultats. Il va y avoir une espèce de... On peut brainstormer là-dessus vachement longtemps. Et donc, c'est ce que je fais faire en général au début, pendant 5 minutes, je note tout. Et puis après, je dis, on a posé la même question à des chefs d'entreprise et on a essayé de résumer au maximum. Parce que, en fait, un bon manager, Comment toi, en tant que chef d'entreprise, tu repères un bon manager? C'est-à-dire, si vraiment il faut que tu ailles, je dirais, à ce qui est le plus essentiel chez un manager, en fait, c'est deux choses. Quand tu es manager, tu es payé pour deux choses. Tu es payé, ton entreprise te paye pour obtenir ce que j'appelle les deux R du management. C'est du résultat et de la rétention. Tout le reste, tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire il faut qu'il ait du leadership, il faut qu'il ait de l'écoute, tu peux le regrouper dans l'un de ces deux domaines. Donc le résultat, c'est quoi? Bah, c'est rendre ton équipe performante dans le cadre du projet de l'entreprise. Ça, c'est assez évident. Et la deuxième chose, c'est la rétention. C'est-à-dire que c'est en obtenant ce résultat, tu ne perds pas ton équipe en route. C'est-à-dire que s'ils sont tous en burn-out, ils sont tous malades ou s'ils rêvent tous de quitter l'entreprise, c'est pas bon à long terme. Et donc, tout le rôle du manager, ça va être d'équilibrer en fait son action entre ces deux objectifs qu'il va avoir.
C'est hyper intéressant parce que du coup, effectivement, je comprends mieux aussi les différences avec du leadership qui est d'emmener des équipes, etc., uniquement, on va dire uniquement, ou de fédérer des gens autour d'un projet. Pour moi, c'est un peu ça le leadership. C'est vrai que c'est pas forcément,
c'est
pas forcément ça la vocation du manager. Et on peut, j'imagine, être manager et pas forcément être un leader des hommes.
Non, mais alors, on fait cette distinction parce que en France, on aime bien dire je suis soit ça, soit ça. On dit pas je peux être les deux en même temps. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'un leader, c'est un manager qui a moins de temps. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'es chef d'entreprise ou que tu opères, je dirais, à un très haut niveau de responsabilité que ça t'exonère de ta mission de manager. C'est-à-dire que les choses, elles s'obtiendront simplement, pas que grâce à toi, elles vont s'obtenir aussi parce que tu sais manager les gens qui sont en dessous de toi. Et donc, le fait de vraiment d'aller au fond du fond de ce que c'est que manager des gens au quotidien, c'est important autant pour un responsable de salon de coiffure qu'un dirigeant du CAC 40. C'est-à-dire, c'est comment je fais pour gérer les personnes de manière efficace et en même temps respectueuse. La question, c'est toujours la même. Comment je fais pour obtenir les deux R?
Ce qui est intéressant dans ce que tu disais là, c'est que je pense que pour beaucoup de gens, le mot manager, ça prend son sens uniquement quand on a une boîte, je sais pas, de peut-être 20... 30 salariés et puis ensuite ou un grand groupe, mais je pense que beaucoup d'entrepreneurs qui en plus souvent sont des doueurs, des personnes qui font et qui n'aiment pas trop déléguer, on passe cette notion que manager dès le début, même quand on a juste un stagiaire, ben en fait c'est utile. Et donc toi, c'est tu clair. Recommanderais de mettre en place, pour un exemple concret d'un entrepreneur qui vient de lancer sa boîte et qui a peut-être son premier employé ou son premier stagiaire, de mettre en place par exemple c'est 1-1?
Oui, en fait, moi, à partir du moment où tu as une personne sous ta responsabilité, tu peux mettre en place les 1-1. Après, il y a beaucoup de gens qui réussissent à survivre en termes de management jusqu'à un seuil qui est à peu près un seuil de 8 personnes. En général, tu n'as pas trop besoin de structurer ta boîte. Je veux dire, et puis ça dépend aussi du degré de maturité de ta boîte. Si tu veux, quand tu es dans une phase pionnière et que dans ta boîte, tu n'as que les gens du début et qui sont hyper motivés, etc., etc., tu vois pas trop les problèmes de management parce que, en gros, l'objectif, il est tellement clair, il est tellement évident pour tout le monde et chacun connaît tellement bien son rôle qu'on peut presque travailler en parallèle. Mais, bah alors, 3 personnes, 4 personnes, 5, et puis tu as un seuil au bout duquel il y a quelque chose qui va se développer dans l'équipe qui s'appelle la friction de communication. Et là, tu vas commencer à devoir faire des choix dans la manière dont tu communiques avec les gens et tu vas pas faire des bons choix. Par exemple, tu vas communiquer plutôt avec les gens qui te donnent de l'énergie ou les gens qui sont proches ou les gens qui te ressemblent. Et puis les autres, bah, tu n'auras jamais le temps pour eux. Ou à l'inverse, parce que ça dépend de ton tempérament, tu vas passer tout ton temps avec les gens qui ont des problèmes. Et ceux qui sont les super performeurs de l'équipe, tu vas les oublier et un jour, ils vont te quitter ou ils vont devenir des divas. Donc, en fait... Moi, je conseille de démarrer dès le début, c'est-à-dire que faire un 1-1 une fois par semaine avec le premier employé de l'entreprise, ça marche très très bien. Et en plus, ça te forme, toi, en tant que manager, et ça te montre comment tu vas pouvoir faire grossir ta boutique en intégrant des gens.
Moi, je dis souvent, c'est pas parce qu'on démarre petit qu'il faut pas mettre en place un système assez tôt pour juste ensuite le faire grandir avec soi, quoi. Parce que c'est vrai que si tu... c'est beaucoup plus difficile de changer de système en cours de route que de commencer sur de bonnes bases.
Absolument. Après, je dirais clairement, c'est pas parce que jusqu'à maintenant t'as réussi à tenir la boutique, mais que tu sens que il va falloir changer, que c'est pas possible. Quand tu vas commencer à mettre en place les 1-1, etc., etc., ça va fonctionner. Hein. Moi, j'ai pas de cas où ça a pas fonctionné. Ça a été plus ou moins long, mais parce que tu te rends compte que quand tu mets des 1-1, t'as quand même une fréquence qui est très élevée. Hein. C'est toutes les semaines, donc tu vas progresser super vite. Au bout d'une semaine, t'auras fait, si t'as 6 personnes, 6-1-1, au bout de 2 semaines, t'en auras fait 12, au bout de 3 semaines, t'en auras fait, et ainsi de suite. Donc, tu vas progresser très, très fort.
On a parlé un peu du cas du manager entrepreneur et je pense que c'est un cas intéressant parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent le podcast et comme je te disais, moi un message qui revient souvent et dont j'ai été moi-même victime entre guillemets, c'est que quand t'es entrepreneur t'aimes bien faire et t'aimes pas trop déléguer ou autrement tu micromanages ou voilà c'est jamais assez bien fait, enfin les trucs un peu classiques. Et du coup je voulais discuter avec toi de délégation pour qu'on comprenne bien ce que ça implique parce que je pense que beaucoup d'entrepreneurs justement... savent pas forcément déléguer et soit tu vois délèguent un peu tout sans distinction et ce qui a pu être mon cas par exemple et sans contrôle et du coup ensuite l'employé peut partir en vrille, soit à l'inverse il y a la tendance du micromanagement et du coup on déresponsabilise complètement les gens. Quelle est ta vision là-dessus? Est-ce que tu peux m'expliquer aussi quels sont les outils qu'on peut mettre en place justement pour réussir à faire une bonne délégation?
La délégation c'est le graal du manager. C'est-à-dire que quand on regarde les bons managers, il y a pas mal d'études qui ont été faites, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on a fondé nos quatre outils. Hein. Nos quatre outils fondamentaux, c'est le 1-1, le feedback, le coaching et la délégation. Qu'est-ce qu'on regarde? En fait, les bons managers, c'est des gens qui ont une excellente relation individuelle et professionnelle avec chacune des personnes de leur équipe. Ça correspond au 1-1. C'est des gens qui donnent un retour en permanence sur la performance de leurs collaborateurs. C'est le feedback. C'est des gens qui demandent toujours plus à leurs collaborateurs et qui les font évoluer, maximiser leur potentiel, si on veut utiliser des termes, les termes adéquats, c'est le coaching. Et c'est des gens qui délèguent comme des fous. Et c'est ça qui va leur permettre de se développer. Parce que la première chose, c'est la prise de conscience que si vous êtes un entrepreneur et que vous déléguez pas, vous devenez le facteur limitant de votre entreprise. Vous devenez le maillon faible de l'entreprise. Vous êtes celui qui freine la croissance de votre entreprise.
Mais ça, c'est tellement important, je me permets de le répéter. L'entrepreneur devient le goulot d'étranglement. Et honnêtement, c'est je pense que psychologiquement, il faut le dire, on ne peut pas réussir à faire grandir sa boîte si jamais on n'arrive pas à déléguer. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, le temps de notre journée est limité. Même si on bosse 4 fois plus, il y a un moment donné où il n'y a que 24 heures dans une journée. Il faut quand même dormir et manger et se laver. Et donc, là-dessus, je voulais insister dessus.
Et je suis tout à fait en phase avec toi. Et en fait, c'est le problème du chef d'entreprise et c'est le problème de l'expert. C'est-à-dire que dans les gens qui m'écoutent, il y a aussi des gens qui sont pas chefs d'entreprise, mais qui sont très, très forts dans un domaine. Et pour eux, c'est très compliqué de déléguer. Donc, qu'est-ce que je conseillerais à un chef d'entreprise? Déjà, c'est cette prise de conscience. C'est-à-dire, bon, donc maintenant, en fait, je vais devenir le maillon faible de mon entreprise. C'est la première prise de conscience. Le deuxième effort qu'il faut qu'il fasse, là, c'est qu'il se dise, mais en fait, au départ, pourquoi j'ai créé une entreprise? C'est-à-dire, c'était quoi mon but? C'était d'être indépendant. Parce que ce qu'on retrouve très fort chez les entrepreneurs, c'est ce désir de liberté. Et au bout d'un moment, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'ils creusent leur propre trou. C'est-à-dire qu'en fait, ils deviennent l'esclave de leur entreprise. Et il y a un moment, quand tu es chef d'entreprise, il faut que tu apprennes à travailler sur ton entreprise plutôt que dans ton entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que tu ne sois plus la ressource de ton entreprise. Parce que sinon, tu vas plus faire ton job de chef d'entreprise. Donc, c'est vraiment cette prise de conscience, elle est vraiment importante. Il faut qu'elle se fasse au plus profond de la personne.
Et donc ça veut dire, parce que j'ai déjà eu cette conversation 1000 fois, est-ce que ça veut dire, Cédric, qu'il faut accepter que la personne fasse différemment, fasse moins bien? Parce que tu as énormément d'entrepreneurs, des experts justement, qui vont te dire « Oui, mais je sais que je peux faire plus vite et mieux. Pourquoi est-ce que je vais aller déléguer ?»
Ouais. Alors, je vais y venir. Ensuite, il faut quand même que cette personne, elle se dise « C'est quoi mes super pouvoirs ?» C'est-à-dire, dans quoi je suis vraiment super bon? Par exemple, je suis un super vendeur. Par exemple, je suis le super codeur de la boîte. Par exemple, je suis super bon dans les relations. Je suis vraiment dans ce domaine-là, je suis un super héros. Et pour trouver quelqu'un d'aussi fort que moi, ça va être compliqué. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la prise de conscience, ça peut être de se dire pour que je puisse performer, mais vraiment à fond dans le domaine où je suis très fort, pour que je puisse m'appuyer sur mes forces, il faut que je délègue les domaines dans lesquels je suis moins fort. tu vois, ça peut être un point de bascule. Je le mentionne parce que c'est important et qu'il faut connaître ses forces et ses faiblesses, ainsi que les forces et les faiblesses de nos collaborateurs d'ailleurs, pour développer leurs forces et pas essayer de corriger leurs faiblesses. Donc, il y a ça. Maintenant, j'en viens à ta question, c'est oui, mais le problème, c'est que si je confie ça à Albert, il va être moins fort que moi, parce que moi, je sais mieux faire que lui, je vais plus vite, etc. D'ailleurs, j'ai déjà essayé, et j'ai tout de suite vu qu'il était moins fort que moi, donc vite, je lui ai repris ce que je lui avais donné. Ça, c'est le cas classique. Et là, moi, je réponds, ouais, mais l'erreur fondamentale que tu fais quand tu fais ça, c'est que ta métrique, c'est-à-dire ce sur quoi tu vas juger la performance de ton collaborateur, c'est le niveau où tu es maintenant, toi, avec tes années d'expérience. Mais quand t'as commencé, t'étais comme Albert. T'étais pas fort. Je veux dire, t'as dû apprendre, t'as fait plein d'erreurs. Et finalement, au bout de 4-5 ans, tu en es arrivé au niveau de performance où t'es actuellement. Donc, le niveau minimum que tu demandes à Albert, c'est pas ton niveau de maintenant. C'est le niveau que toi, tu avais à l'époque quand t'as commencé. Et comme lui, Albert, il va avoir la chance d'être accompagné par quelqu'un qui connaît bien, c'est-à-dire toi, il va progresser plus vite que toi, il va devenir meilleur que toi, et c'est
ton
objectif.
Tu vas le mentorer un peu, quoi. Tu vas le... Enfin, c'est...
Ouais. Bah ouais. Alors après, on me dit, ouais, mais c'est vrai, mais en même temps, ça va me prendre plein de temps. C'est-à-dire que je vais passer 3 fois plus de temps à faire les choses parce que je vais devoir les expliquer à Albert. Donc, c'est vrai. Ça risque de te prendre un petit peu de temps si c'est toi qui formes Albert, mais c'est du temps investi. C'est-à-dire que le temps que tu vas perdre maintenant, tu vas le rattraper plus tard. C'est-à-dire que comme tu vas te dégager du temps, le nombre d'heures que tu auras consacré à former Albert, à un moment, ça va devenir un actif dans ton équipe et tu n'auras plus besoin d'intervenir à ce niveau-là. Et donc, toi, tu vas pouvoir remettre tes billes, le temps que tu vas gagner, dans quelque chose où tu es super fort. Où t'es le super-héros de la boîte.
Et puis un petit conseil peut-être aussi là-dessus, ensuite, c'est que souvent, bon, il peut y avoir un départ ou il peut y avoir d'autres personnes qui vont avoir le même poste et qui sont recrutées. Faut pas hésiter aussi à essayer de noter en fait le processus de formation, parce que moi j'ai déjà vécu ça 15 fois, de recruter quelqu'un, de passer énormément de temps à le former, ça se passe bien, mais au bout d'un moment, la personne veut avoir une autre carrière, etc. Je sais pas. Nos chemins se séparent, il faut repartir de zéro, ça c'est hyper frustrant.
Ouais, je suis d'accord. Et donc, ce que tu vas demander à Albert, au fur et à mesure qu'il progresse, parce que après je vais te décrire le processus de délégation, parce que c'est une autre erreur qu'on fait souvent, t'en as parlé tout à l'heure, c'est en fait, tu dis, bon, bah maintenant t'es chargé de ça et c'est fini. Or, une délégation, c'est un processus. Mais disons que pendant ce processus, Albert, il va aussi noter et il va écrire son processus. Ça va faire partie de ce que tu lui demandes, et le reporting sur la manière dont il progresse, c'est lui aussi qui va le faire. En fait, parce qu'après, j'ai un outil spécifique qui s'appelle la délégation. Et en fait, cet outil, la première prise de conscience aussi qu'on va avoir, la deuxième prise de conscience après avoir réalisé que finalement, Albert, il va démarrer à un niveau qui est moins bon que le nôtre et que notre but, ça va être de l'amener à notre niveau, ça va être de se dire que c'est pas un one shot, c'est un process. Et donc, il faut voir la délégation comme un train qui va aller de gare en gare. La gare de départ, c'est où est Albert aujourd'hui. La gare d'arrivée, c'est où tu es toi aujourd'hui, en termes de compétences. Ouais. Et les gares intermédiaires, c'est toutes les étapes qu'il va devoir franchir pour atteindre le niveau où toi tu te situes, et ensuite pour continuer à progresser là où toi tu peux plus progresser parce que tu n'as pas le temps. Et donc, ça veut dire que quand tu délègues à quelqu'un, c'est un process que tu mets en place, avec un début et une fin, avec par exemple... Bah écoute Albert, aujourd'hui t'es au niveau zéro. On est le 30, oui, on est le 30 novembre et il faut que tu sois au niveau 10 le 28 février. Et on va construire ton évolution. Et comme t'auras mis en place des 1-1, puisque c'est l'outil fondamental, tes 1-1, ils vont te servir à quoi? Ils vont te servir à coacher Albert. Et coacher, ça n'est pas former. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'être la ressource qui va former Albert. Ça. Toi, quand tu as démarré, il y a peut-être personne qui t'a expliqué comment on devait faire. Par contre, tu avais super envie de réussir. Donc, ton rôle de manager, ça va pas être forcément de transférer ta manière de faire à Albert, parce que lui, il va peut-être avoir une manière différente de faire les choses, qui est pas moins bonne, parce que ce que tu vas contrôler, c'est les résultats, pas la manière dont il fait. Et donc, tu vas avoir vraiment un rôle de coach et pas un rôle de formateur.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Et donc, ton rôle de coach, c'est quoi ? Bah, c'est de dire, maintenant, je vais te déléguer cette chose-là, on se met d'accord sur le timing qu'on se donne, on fait des points réguliers sur la manière dont tu progresses, ça se fera au cours des 1 à 1, et tu vas me dire à chacun d'un où t'en es, les difficultés que tu rencontres, etc. Et moi, je vais mettre en œuvre des ressources pour t'aider à progresser. Mais la ressource, c'est pas forcément moi.
Alors ça peut être quoi, là ?
Ça peut être un formateur.
Ça peut être un formateur, ça peut être des, je sais pas, un livre, ça peut être...
Un podcast, ça peut... Voilà.
Et, oui, t'es là pour lui apporter des solutions, quoi, et pour lui apporter des ressources, comme tu le dis.
Bah, t'es là à la fois pour avoir eu quand même un petit peu une exigence de résultat, hein. On est pas, c'est pas le monde de Candy quand même. Voilà, c'est d'être sûr que quand il est arrivé à la gare numéro 5, il fasse pas une marche arrière jusqu'à la gare numéro 3, c'est-à-dire qu'il continue à avancer vers la gare de destination. Et ce que tu vas mesurer, en fait, c'est sa progression. C'est-à-dire que ce que tu vas mesurer, c'est ton degré d'implication dans la tâche que tu es en train de déléguer qui diminue et son degré d'implication dans la tâche qui augmente. Et ça va être juste ça. Alors, je sais que ça paraît un peu compliqué quand je le dis, mais effectivement, la délégation,
ouais,
c'est pas simple.
Le truc le plus facile.
Mais c'est absolument primordial et fondamental. Et mon conseil, c'est de pas commencer par là.
Commencer par le 1 à 1, ça tu as dit, c'était très clair, je pense.
Dans l'ordre, c'est le 1 à 1, le feedback, le coaching et la délégation. La délégation,
c'est plus dur, en fait.
C'est le graal du manager. Mais je peux te dire que quand tu vas commencer à mettre en place les 1 à 1, tu vas parler d'autonomie avec tes collaborateurs. Et donc, finalement, tu vas leur faire prendre plus d'initiatives personnelles. Et ça, c'est un premier pas vers la délégation. Et tu vas peut-être réussir à ce qu'eux-mêmes te prennent du travail sans que tu le demandes. Alors ça, je sais que ça paraît totalement inconcevable quand on n'a pas mis en place son management. C'est le rêve, mais ça existe.
Ça existe, au
contraire. Ça dépend des tempéraments, de tes collaborateurs, etc.
J'avais une autre question pour toi sur les différentes natures de potentiels collaborateurs, sur les différents profils. Alors, j'ai fait sur ton site d'ailleurs le test DISC dont tu vas me parler, j'espère.
Ouais.
Et j'ai eu pas mal de questions de mon audience sur justement comment gérer, si tu veux, différentes natures, comment manager différentes natures, comment gérer les conflits, les on-dits, tu vois, ce genre de choses quand on se comprend pas. Et donc, si ça te va, je veux bien que tu nous expliques un peu ce que c'est que le DISC, tu vois, en quelques mots, pour que déjà on comprenne, en fait, justement, ce que c'est.
En fait, le deuxième, tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais fait un sondage sur des managers, donc le premier problème, c'est le temps, et le deuxième problème, c'est les conflits. Je vais me répéter, mais la première chose que tu peux mettre en place pour justement gérer les différentes personnalités de tes collaborateurs, c'est une communication individuelle, ça s'appelle le 1 à 1. Je me répète, hein, je suis désolé, mais déjà le fait de les écouter, tu vas te rendre compte qu'ils sont pas pareils entre eux et ils sont pas pareils que toi. C'est déjà une énorme prise de conscience.
Et souvent une grosse frustration, quoi, réaliser qu'ils sont pas comme toi, mais...
Non, mais c'est vrai, hein. Je veux dire, tout d'un coup, parce qu'en fait, si tu veux, on n'est pas trop habitué à ça, parce que dans la vie courante, je dirais, on choisit nos amis, et en général, on choisit des amis qui collent avec notre profil à nous, et donc on se dit, mais je comprends pas, moi, dans la vie, je m'entends bien avec tout le monde, ça se passe bien, puis dans la boîte, c'est terrible, j'y arrive pas, c'est parce qu'ils me voient comme leur chef, du coup, ils m'aiment pas, etc.
Ouais, ou même des collaborateurs entre eux, quoi.
En fait, oui, absolument, tout à fait. Et or, les meilleures équipes, c'est celles qui contiennent le plus de profils différents. Je vais y revenir. Alors donc première étape primordiale déjà pour se rendre compte des tempéraments et du fait que tes collaborateurs sont différents, c'est la mise en place du 1 à 1. Donc tu passes d'une communication collective où tu penses que tout ce que tu dis, en fait, tu peux le dire de la manière identique pour tout le monde, à une communication individuelle où tu te rends compte qu'en fait, même si les objectifs sont communs dans l'équipe, la manière d'expliquer les objectifs pour chaque personne sera différente parce que tu vas choisir tes mots différemment. La deuxième étape, c'est effectivement de prendre conscience qu'on a des profils comportementaux différents. Et là, je parle pas de choses trop ésotériques. dans la population mondiale, tu peux classer les gens selon des profils comportementaux. Par exemple, il y a des gens qui parlent plutôt fort, il y a des gens qui font plutôt beaucoup de gestes, il y a des gens qui regardent plutôt leurs pieds quand ils parlent, il y a des gens qui communiquent plutôt volontiers par écrit plutôt que verbalement, etc. Ça, tout le monde l'a remarqué. On n'est pas pareil. Et une fois qu'on a fait ce constat, on peut effectivement être très déçu ou se dire « mais voilà, c'est impossible, comment je vais faire ?» Ou bien on peut essayer de trouver un outil qui va nous aider à entrer en communication avec les profils qui sont différents du nôtre. Il y a plein d'outils qui existent. Moi, il y a un outil que j'aime bien qui s'appelle le DISC. Donc DISC, c'est dominant, influent, stable, consciencieux. C'est aussi la méthode des couleurs.
Oui,
je sais qu'il y a
une
méthode qui existe, qui rouge, bleu, jaune, vert. Bon, c'est exactement le même genre de classification. Et en fait, ce qu'on va faire avec cette méthode, c'est que on va catégoriser les gens. De manière d'ailleurs un peu caricaturale, mais
oui,
c'est
parce
pas
que
grave.
J'imagine qu'aucune personne n'est à 100% l'un des profils.
Exactement. Aucune personne n'est à 100% l'un des profils. Aucune personne n'est en permanence dans un profil, c'est-à-dire que tu peux être dominant en entreprise et stable avec tes amis, etc. Et en plus, le profil va progresser dans le temps. Par exemple, on en discutait juste avant, moi j'ai démarré plutôt dominant et aujourd'hui je suis plutôt influent.
Moi je suis désespérée, voilà. Messieurs, dames, parce que j'ai fait le test sur le site de Cédric et je dois vous dire, et c'est comme ça qu'on a commencé à échanger, je dois avouer que je suis un profil I. I et D quand même, pas mal aussi.
Comme moi,
je suis moite,
tu vois,
mais je suis un peu désespérée d'être I, on va en reparler après.
Alors D c'est dominant, I c'est influent. Donc, pour en fait cartographier un petit peu le truc, tu prends une feuille en papier, tu la divises verticalement et horizontalement. D'accord ? Donc ça te fait quatre cadrans, un en haut à gauche, un en haut à droite, un en bas à droite, un en bas à gauche. Et le D, il est en haut à gauche, le I, il est en haut à droite, le S, il est en bas à droite, et le C, il est en bas à gauche. Ok, ça fait une espèce de cercle comme ça. La ligne horizontale, elle démarque les gens qui sont plutôt extravertis, ils sont au-dessus de la barre, et les gens qui sont plutôt introvertis, ils sont en dessous de la barre. C'est-à-dire que les gens qui sont au-dessus de la barre, c'est des gens qui ont plutôt l'impression qu'ils vont pouvoir changer leur environnement. Les gens qui sont en dessous de la barre, ils sont plutôt à essayer de s'adapter à leur environnement. Ensuite, tu as gauche-droite. À gauche, tu as les gens qui sont plutôt orientés tâches ou résultats. Et à droite, tu as les gens qui sont plutôt orientés personnes, communication. C'est ça. Donc, un dominant, c'est quelqu'un qui est plutôt orienté résultat et qui se dit qu'il va savoir changer son environnement.
C'est beaucoup d'ailleurs des profils d'entrepreneurs.
Alors, ça, on va en reparler après, mais effectivement, oui, mais ça peut aussi être un rôle que tu te donnes parce que tu es entrepreneur, et en réalité, fondamentalement, tu n'as pas forcément ce profil-là, au fond. Ton profil naturel n'est pas forcément celui-là, mais effectivement, quand tu es chef d'entreprise, tu vas avoir des comportements qui s'apparentent aux dominants. Et donc, ça va être des gens qui surmontent l'adversité pour obtenir des résultats. C'est ça leur définition. On caricature, hein. Personne n'est à 100% dans ce domaine-là. Hein.
Mais concrètement, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ressemble à quoi ? Parce que j'imagine que tout le monde ne va pas non seulement faire le test DISC et en plus le faire à tous ses collaborateurs. Donc juste pour qu'on essaye de...
Pourquoi pas.
On pourrait, mais pour visualiser un peu, c'est difficile de schématiser, mais c'est quel type de personnalité ? Qu'est-ce qui le rend un peu identifiable ?
Alors en fait, un dominant, ça va être quelqu'un qui n'utilise pas beaucoup de formules de politesse, quelqu'un qui va aller droit au fait, qui va facilement pointer les gens du doigt, qui va avoir un eye contact très facile, c'est-à-dire qu'il va te regarder dans les yeux, un regard perçant, qui va avoir une gestuelle en dehors de la zone normale normale de gestuelle, c'est-à-dire au-delà de la largeur de tes épaules et au-dessus de la zone qui se situe entre tes épaules et ton bassin. Ça va être quelqu'un qui va pouvoir être perçu comme quelqu'un d'assez conflictuel. Enfin, il va pas chercher le conflit, mais il a pas de problème avec le conflit. La confrontation lui fait pas peur. Et ça va être quelqu'un... Alors, je suis sûr que là, tu commences à entrevoir des personnes de ton entourage. Voilà, c'est straight to the point. C'est on fait pas d'omelette sans casser deux. Arrêtez le blabla et venez-en au fait. C'est et il va avoir un débit assez rapide, pas de problème pour s'imposer.
Ok.
Là, je te fais une caricature. Ouais, en fait, sûr, on n'est jamais totalement comme ça. Mais voilà, c'est Arnold Schwarzenegger, c'est Trump, c'est peut-être Sarkozy. Enfin, d'accord. Voilà, c'est ce genre de personnes.
Intéressant.
Ensuite, tu as l'influent. Donc, lui, il est aussi assez convaincu qu'il peut faire changer son environnement, etc. Il est extraverti. Par contre, lui, il va attacher une grande importance à sa relation avec les autres. Et donc, ça va être quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui peut transmettre beaucoup d'énergie dans une réunion, qui peut avoir un leadership important, même si les quatre profils peuvent avoir leur leadership. Hein. Mais classiquement, on estime qu'un I, il a ça. Par contre, il va pas toujours être super fort dans le suivi des tâches. Il va tendance à prendre beaucoup de projets en même temps et pas réussir à en mener jusqu'au bout. Il va avoir une difficulté à gérer plusieurs tâches en même temps. Il va beaucoup parler de lui, parfois oublier de parler de son équipe, etc., etc. Ça peut être quelqu'un qui a un petit peu un ego comme ça assez fort.
D'accord.
Ensuite, tu as le stable, donc ou la stable. Hein. Là, c'est Mère Teresa, c'est-à-dire c'est la personne qui aide en permanence les autres, qui est très soucieuse ou soucieux de l'harmonie au sein de l'équipe. C'est quelqu'un qui va avoir, par exemple, un bureau avec une petite lampe, un petit canapé pour recevoir les gens, qui va toujours te proposer d'aller boire un café, qui va être assez enveloppant dans sa communication, qui parle pas fort, qui se laisse facilement interrompre. Mais par contre, c'est aussi un manager, par exemple, qui va être capable d'emmener son équipe dans des épreuves extrêmement difficiles parce qu'il aura su générer une très forte cohésion dans son équipe. Par contre, ça peut être quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions, en particulier des décisions difficiles.
D'accord.
Et ça peut être quelqu'un qui a du mal avec le changement.
D'accord.
Ça peut lui faire peur, on va casser toute l'harmonie qu'on a mis des années à construire, etc. Mmh. etc. Et ensuite, tu as le consciencieux. Le consciencieux, c'est quelqu'un de très rigoureux, très focalisé sur les tâches, capable de suivre des processus, de mettre des règles en place, qui est quelqu'un de très prudent. Assez utile aussi, tu vois, dans une équipe, si tu veux border ou si tu veux être au courant des catastrophes qui pourraient arriver. Par contre, c'est pas un champion du monde de la communication. C'est-à-dire que tu es dans le même bureau, il va t'envoyer un mail. Alors, si dans le même bureau, tu as un influent ou un stable, ils vont dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce type ?» On est dans le même bureau et au lieu de me parler, il m'envoie un mail. Mais le C, lui, il aura envoyé un mail, d'abord parce qu'il n'est pas forcément à l'aise dans les relations, je dirais, individuelles et verbales, et surtout par souci d'efficacité, en disant « Oui, mais comme ça, tu as une trace, puis comme ça, tu peux bien lire ce que j'ai voulu dire, et comme ça, on se comprend mieux. »
Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la manière de l'autre de communiquer, c'est la manière aussi dont il aimerait qu'on communique avec lui.
Exactement. Tout à fait. Et donc, la leçon que tu apprends quand tu commences à faire tes 1-1, à comprendre que tu as différents profils, c'est de te dire, déjà, ils ne raisonnent pas comme moi. C'est-à-dire, moi, au début de ma carrière, je te disais, je faisais des grandes réunions avec tout le monde, j'expliquais les choses selon mon profil de D en utilisant des termes qui ne leur parlaient pas forcément. Et du coup, ils ne comprenaient pas ce que je leur disais. C'est un peu comme si tu vas en Angleterre, mais tu insistes absolument pour continuer à parler en français. Ça va moins bien marcher. Et donc, apprendre déjà quel est ton profil, ça te permet deux choses. Ça te permet d'expliquer à tes équipes quel est ton profil.
Ça, tu le fais. Tu vas dire à tes équipes quel type de personnalité t'es.
Ouais. Absolument. Et en fait, tu ne vas pas le dire en disant, vous voyez, je suis un sale dé, voilà, parce que ça, ils savent déjà. Tu vas leur dire, voilà, moi, je suis dominant. Et donc, si vous voulez réussir à bien communiquer avec moi, quand vous venez me présenter un projet, démarrez par la conclusion. Parce qu'un dominant, il va toujours mettre la conclusion en premier, et ensuite, éventuellement, il va écouter le raisonnement qui a permis d'aboutir à cette conclusion. Et quand tu dis ça à un C, consciencieux, c'est une révélation absolue, parce que lui, il a toujours travaillé autrement. Il a toujours emmagasiné des données pour comprendre ce qui se passait, et puis il hésite, et puis on peut faire comme ça. Et d'ailleurs, il n'a pas forcément de conclusion, c'est tout à fait juste. Et donc, toi, t'es en face, t'es complètement, t'en peux plus de l'écouter parce qu'en fait, il va pas straight to the point comme tu voudrais et tu dis, mais il me cache des choses. Mais non, c'est juste que c'est pas sa manière de réfléchir. Donc, la première chose que ça te permet de faire, le disque, c'est de donner à tes collaborateurs ton mode d'emploi. De dire, moi, je suis comme ça. La deuxième chose, qui est peut-être moins évidente pour certains profils, c'est de s'adapter à tes collaborateurs. C'est-à-dire te dire, tiens, lui, comme il est C, je vais pas lui parler à lui qui est I. Je vais lui parler d'une autre manière, je vais les gérer différemment, parce qu'il sera plus productif, parce qu'il sera plus efficace, si je lui parle de cette manière-là. Tu sais, c'est ce que font naturellement les traducteurs commerciaux. Hein. Ils analysent leurs clients, en 3 minutes, ils ont compris dans quelle case il était, et ils savent comment ils vont lui parler.
Moi, du coup, pour être un peu une I que j'assume pas, je sais très bien que j'adapte complètement quand même ma manière de m'exprimer assez naturellement, et ça paraît évident à quelqu'un qui est très réservé, très comme tu dis, un regard vers le bas et voilà. Tout, parce qu'en fait si tu t'arrives comme ça avec tes gros sabots, en pas lui hurlant dessus mais en étant hyper verbal, hyper extraverti, mais juste cette personne tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette fille complètement tarée, et donc il faut c'est pas de la manipulation, mais disons qu'il faut savoir s'adapter, je pense, à l'autre, quoi.
Tout à fait, complètement. Tu pensais que tu étais quel profil, toi?
Non, mais je pense que, en fait, j'ai découvert donc le disque en faisant un peu mes recherches sur toi et du coup en regardant sur ton site. Et donc, je l'ai fait sur ton site et ça prend pas très longtemps, quoi. Ça prend même pas 5-10 minutes. Et honnêtement,
Enfin, ça prend 5-10 minutes pour un D. Ouais. Un C, il va prendre 3 quarts d'heure parce qu'il va se dire, ouais, mais si je réponds.
Bon, bah écoute, non, moi je me doutais, en fait, si tu veux, je me doutais que j'étais I borderline D. C'est-à-dire que je savais que j'étais pas du tout C, je savais que j'étais pas S, ça c'était évident pour moi. Je savais que j'étais entre les deux, je savais pas quel était le dosage exact et il semblerait que c'est à peu près 50-50, mais voilà.
Ce qui est très, très important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bon et de mauvais profil. On est sur du comportemental, hein. C'est-à-dire que jamais, 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 on va se demander, mais pourquoi la personne est comme ça? On s'en fout. On est dans l'entreprise, on n'est pas des psys. Et je dirais que une des grandes leçons aussi du management, c'est que vous n'êtes pas là pour soigner vos collaborateurs, vous n'êtes pas là pour leur changer leur pensée, je dirais, intime. Vous êtes là pour influencer leur comportement.
Non, et puis aussi, moi, ça a été un peu une révélation parce que je me suis rendu compte que, effectivement, il y a certaines personnes peut-être avec lesquelles j'interagis moins naturellement, mais en fait, je vois aussi leur qualité, du coup, et je comprends leur qualité, et je comprends aussi que c'est une manière différente de penser et que c'est pas, qu'ils veulent mon mal, que je veux leur mal, enfin, ça n'a rien à voir, en fait.
Non, en fait, c'est super important que dans ton équipe, t'aies, l'idéal, c'est d'avoir les 4 profils, mais après, ton job de manager, et c'est là que c'est passionnant, le job de manager, c'est de dire, mais comment je les assemble et comment, en fait, je fais une équipe qui est à fond dans les 4 caractéristiques. Et donc, après, ça te permet de gérer. Tu vois, par exemple, t'es chef de projet. Eh ben, tu vas apprendre qu'en fait, pour démarrer un projet, tu vas donner le pouvoir aux I, parce que les I, ils vont donner une énergie au groupe énorme. Et puis à un moment, un projet, hein, il y a toujours la même courbe, hein, tu connais la courbe du DIP, etc. Ton projet, il va plafonner. Tu vas arriver à un moment où on n'y arrive plus. Parce que c'est dur, parce qu'il faut faire plus d'efforts. Bah là, tu vas mettre en route tes dés, tes dominants, parce que eux, ils sont forts pour sortir. Bah là, on fait pas d'omelette sans casser d'œufs, il faut sortir de l'ornière, etc. Et puis au moment où ton projet va commencer à s'essouffler, tu vas dire, allez, maintenant, on met en action les C, parce que les C, ils planifient, ils boardent, ils font les derniers... Mais tu vois, et là, tu vas réussir à faire une équipe qui cartonne, parce que le résultat collectif, c'est l'exploitation des individualités des personnes. Et donc, tu vas réussir à la fois à faire une belle œuvre collective, ce dont on nous rabat les oreilles en termes de management depuis toujours, mais sans jamais nous dire comment il faut faire, en fondant le collectif sur les individualités. Ouais. Parce que pour moi, une des grandes crises du management aujourd'hui, c'est qu'on oublie qu'en fait, il faut satisfaire l'individualité de la personne. C'est-à-dire que moi, si je suis dans une entreprise, ok, il y a un projet collectif et ça me fait vachement plaisir d'y participer, mais moi, je veux savoir qui je suis dans l'entreprise. J'ai fait un podcast il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si tu l'as écouté, qui s'appelle Voilà, zut, le nom, mais quelque chose comme voyez vos collaborateurs. Non, faites de vos collaborateurs
ah oui,
des héros.
Je l'ai pas écouté, non, pas encore.
Et ça, enfin, pour moi, ça a été un peu aussi une révélation, c'est de te dire, plutôt que d'être un doueur, c'est-à-dire de rester celui qui fait tout dans ma boîte et donc je fais tout, etc. Mon grand plaisir aujourd'hui, c'est que j'ai une équipe dont je sois admiratif et fier. Et là, tu remplis les deux conditions. La première qui est le résultat, parce que quand on est considéré comme un héros, on performe. Et la rétention, parce que jamais j'irai dans une autre boîte si dans ma boîte, je suis considéré comme un héros.
Complètement. Et puis, je pense que c'est aussi un constat qui peut soulager certaines personnes qui écoutent. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont un peu dans l'ornière, qui, comme ils font tout, se sentent complètement submergés, complètement débordés, ont l'impression qu'ils ne vont jamais y arriver parce qu'en gros, ils n'arrivent pas à déléguer. Alors, déjà, première chose, c'est normal. Et deuxième chose, en fait, si tu arrives à faire grandir tes équipes et à vraiment les développer, faire en sorte qu'elles prennent le lead sur les sujets et que tu ne sois plus là pour contrôler, ton rôle, ça devient d'être une ressource, mais t'es pas non plus inutile, parce qu'en fait, déjà, c'est toi qui as constitué. Voilà, t'animes.
Tu animes, et puis t'animes des gens formidables qui sont autonomes, qui prennent leurs pieds dans leur boîte, et je trouve que c'est un plaisir infiniment plus important que d'augmenter la bottom line.
Mais tu vois, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, je pense, qui ont peur, et c'est pour ça que j'insiste dessus, et moi, j'ai pendant longtemps été dans ce cas, qui ont peur de devenir inutile. Qui ont peur de devenir inutile parce qu'en gros, ils se disent « Moi, j'ai créé une boîte pour faire des choses, j'aime faire, j'aime machin. » Et qui se disent « Voilà, je ne suis pas sûr. » Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, je vous invite, chers auditeurs, si vous êtes dans ce cas, à vous poser la question. Est-ce qu'en fait, vous voulez vraiment déléguer? Est-ce que vous voulez vraiment lâcher?
Moi, ce que je vois surtout chez les entrepreneurs, c'est qu'il y a ce désir-là, puis en même temps, elles se plaignent d'être débordées parce que les gens chez eux sont incapables de prendre le lead sur certaines choses. Mais en fait, les gens, ils sont comme vous les traitez. Tu sais, l'être humain, il s'adapte. Hein. Si tu le considères comme un imbécile, il devient assez vite un imbécile. Et puis, c'est un tel plaisir que dans les 1-1, parce que le 1-1, il va évoluer pendant toute la carrière de tes collaborateurs. Et moi, aujourd'hui, j'ai des collaborateurs. En fait, le 1-1, c'est le gars ou la fille, elle m'explique juste ces actions formidables qu'elle a réalisées pour la boîte dans laquelle elle est, qui est ma boîte. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, moi, aujourd'hui, quand je te parle de ma boîte, je vais pas dire ma boîte est formidable. Je vais dire, dans ma boîte, il y a machin qui est très, très fort là-dedans, que j'admire, etc., etc. Et pourtant, je suis un dé, hein. Donc, même d'ailleurs, comment tout arrive, c'est ça. Et c'est un plaisir au moins aussi fort que le plaisir de performer. Et en plus, tu as le droit aussi de performer dans les domaines où tu considères que il faut que tu continues à performer. Tu deviens toi-même meilleur.
Hyper intéressant. Écoute, Cédric, pour wrap it up, comme ils disent en anglais, j'aime bien poser des questions à la fin un peu plus personnelles, que j'appelle maintenant le crible du gratin. Et l'idée, c'est de parler un peu plus de... pas philosophie, mais de grands enseignements. Et une question que je pose souvent, qui m'intéresse beaucoup, c'est les grands échecs que tu as pu vivre ou des grandes erreurs que tu as pu faire. Alors, tu m'en as peut-être parlé, mais s'il y en a d'autres, et des enseignements qui te sont venus suite à ça.
Alors,
et ça peut être pro ou perso.
Effectivement.
Hein, ça peut être personnel ou professionnel, d'ailleurs.
Alors, il y a une chose qui m'est arrivée à titre personnel, qui a été assez fondatrice aussi dans ma manière de gérer mon entreprise. C'est que j'ai eu un enfant handicapé. Donc une petite fille qui a jamais parlé, qui a jamais marché, et dont il fallait beaucoup s'occuper, et dont la maman d'ailleurs passait beaucoup beaucoup de temps à s'occuper. Et pour moi, ça a été un assez fort traumatisme dans ma vie personnelle, évidemment. Mais ça a été aussi une chance absolument énorme, à la fois personnelle et professionnelle. Au niveau personnel, ça m'a appris à, accorder une importance très très forte à l'instant présent, puisque c'est une petite fille qui n'était pas destinée à vivre très longtemps. À avoir une relation avec une personne sans qu'il y ait du verbal, sans qu'il y ait de grand chose d'intellectuel derrière, donc ça c'est au niveau personnel. Mais au niveau de ma vie professionnelle, ça a été aussi une obligation d'être ultra efficace. C'est-à-dire que très tôt, je me suis rendu compte que je pouvais pas continuer à passer 12 heures par jour dans ma boîte. Et quelque part, ça a été assez fondamental dans ma manière de gérer mes entreprises. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux faire outil du manager en ne consacrant plus que la moitié de mon temps à mes entreprises, tout en ayant une vie équilibrée, en faisant du sport, en voyageant, etc., etc. Et donc, voilà, ça c'est pas un échec, c'est plutôt, je dirais, une grosse étape de vie.
Je te remercie pour le partage.
En fait, il y a eu cette chose-là, donc où je me suis dit, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Donc, il y a des choses dans la vie que tu peux changer, puis il y a des choses que tu peux pas changer. Les choses que tu peux pas changer, faut faire avec, faut les accepter, faut avoir cette première démarche, et ensuite te dire, bon, mais pour que ça marche bien, qu'est-ce que je peux changer dans ma vie pour le faire?
Ce qui doit être terrible pour un dé.
Et une des choses...
Ce qui est assez terrible pour un dé, d'ailleurs, de ne pas pouvoir changer les choses.
Ouais, tout à fait. Mais bon, voilà. Quelquefois, il vaut mieux se rendre compte de ça plutôt que d'essayer absolument de changer une situation qui, de toute façon, ne peut pas évoluer. Par contre, on a toujours une énorme marge de manœuvre sur la manière dont on utilise les événements qui nous impactent. Et donc, qu'est-ce que ça m'a appris, je dirais, au niveau de mon entreprise? Ça m'a appris à gérer mon entreprise pour ne plus être utile dans mon entreprise. Et ça, alors je sais que c'est pas évident pour des créateurs d'entreprises, c'est peut-être plus facile pour des gens qui reprennent une entreprise, moi c'est plutôt mon profil, hein, à part la société qui porte outils du manager, le reste ce sont des reprises d'entreprises. Mais ça m'a assez libéré, justement, ça m'a obligé à me dire, en fait il faut que je gère ma boîte comme si je devais la vendre demain.
Ouais, te rendre complètement.
Alors quand je dis ça, on me dit, oulala. Qu'est-ce que c'est que ce type? Ça veut dire qu'il considère que les gens dans sa boîte, ils peuvent être vendus du jour au lendemain, etc., etc. Et en fait, pas du tout. D'abord, le fait que vous soyez un jour amené à vendre votre boîte, ça va vous arriver, hein. Donc, forcément, à plus ou moins brève échéance, il faudra le faire. Mais ça donne aussi une énorme opportunité aux gens de chez vous pour grandir, pour augmenter leur niveau de jeu. Et pour eux, c'est une opportunité aussi. Et donc, réfléchis régulièrement à la manière dont tu peux augmenter la valeur de ton entreprise sans être une ressource pour ton entreprise, je pense que c'est extrêmement sain. Il y a un livre que j'ai lu, alors je suis sûr que tu l'as lu parce que maintenant c'est un best-seller à l'époque où je me suis posé plein de questions, c'est un livre qui s'appelle « La semaine de 4 heures ».
Oui, bien sûr.
Hein ? Bon, alors après... Il y a plein, on peut dire plein de choses négatives sur ce bouquin, etc. Mais il y a quand même un passage, moi, que j'ai trouvé extra. C'est le passage où il dit, si vous aviez une crise cardiaque, là, maintenant, parce que c'est ce qui arrive à pas mal d'entrepreneurs qui font 15 heures par jour, comment vous géreriez votre planning, votre emploi du temps? Et c'est vachement intéressant à faire comme exercice. Moi, je connais un autre chef d'entreprise qui a été immobilisé. Pour lui, c'était moins grave. Il avait un problème de dos et donc il pouvait plus aller à l'entreprise. Il pouvait plus faire de commercial, etc., etc. Donc, il a été obligé de déléguer. Il a été obligé vraiment de garder ce qui était fondamental dans son poste.
En fait, c'est juste vraiment faire une priorisation à l'extrême et se dire qu'est-ce que je dois absolument garder qui n'est pas négociable, quoi. Et en fait, qu'est-ce qui est du gras tout autour? Et en fait, il y a souvent beaucoup de gras.
Voilà. Et t'as le droit de mettre ce qui te fait plaisir dedans. Mais tu te dis, alors bon, Tim Ferriss, c'est 4 heures par semaine. Là, c'est peut-être un petit peu, je dirais, un extrême. Mais par exemple, tu te dis, bon, bah, maintenant, j'ai plus le droit que d'aller une journée par semaine dans la boîte. Qu'est-ce que je fais pendant cette journée? Mon management. Bon, les 1 à 1, ok, ça fait 4 heures. Mince, il me reste plus que 4 heures. Je fais quoi dans les 4 heures qui me restent? L'exercice, c'est vraiment intéressant. Ça veut pas dire que tu vas aller jusque-là.
Non, mais c'est intéressant.
Mais ça va être t'obliger à optimiser à mort. Et moi, je l'ai fait parce que j'étais contraint, et ce que je vous souhaite pas, c'est de le faire parce que vous êtes contraint, parce que vous avez un problème, cardiaque ou ce genre de truc.
Complètement.
Donc, ça, c'était, voilà, c'était une grosse révélation pour moi à une époque. Et la deuxième grosse révélation, une fois que j'ai optimisé à fond la méthode Getting Things Done, le 20-80, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, tu peux optimiser à fond, mais ce qui marche le mieux, c'est le levier managérial.
C'est le leverage. Enfin, avoir des gens qui font, c'est irremplaçable en termes de gain de temps, en fait.
Absolument. Et d'intelligence. Parce que plus tu vas réussir à pousser la décision vers le terrain, plus ton entreprise va
être performante.
C'est
d'ailleurs une des limites, je pense.
Toi, à un moment, tu peux plus
être. C'est d'ailleurs un peu une des limites du livre de Tim Ferriss. D'ailleurs, il le dit. Enfin, je pense que lui-même n'est pas un bâtisseur. Il est plus un entrepreneur, un nomade digital, etc. Mais c'est plus qu'un. Voilà,
c'est ça.
Plus un profil indépendant versus si tu veux vraiment faire grandir quelque chose très très fort, tu peux pas le faire seul, quoi.
Bah, en fait, lui, son truc, c'est qu'il te dit, tu crées ce qu'on appelle une muse. Donc, un truc qui va tourner en automatique, te ramener des revenus, et comme ça, toi, tu peux, en gros,
rien. Vie à côté.
Tu peux ne plus travailler. Ça a ses limites parce que, très clairement, un business en automatique, il va peut-être fonctionner 6 mois, peut-être 1 an, puis un jour, ça va s'arrêter. Et c'est pour ça que je dis, ouais, il a juste oublié l'aspect managérial, quand même. Si tu veux quelque chose, effectivement, qui soit capable de s'adapter en permanence, etc., ça s'appelle une entreprise, et dedans, il y a des gens, et ces gens prennent des décisions.
Exactement. Une autre question pour toi, Cédric, c'est est-ce que tu aurais une maxime ou des mots de sagesse que tu aimerais nous partager ?
Oui, alors il faut que je fasse un effort, parce que c'est une citation qui est un peu longue. En fait, je crois qu'elle vient de Marc Aurèle, j'en suis pas sûr. Ça dit, alors, que la force soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre.
Magnifique.
C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que tu peux avoir beaucoup de courage, tu peux avoir la volonté de déplacer des montagnes, il faut aussi avoir la sagesse de dire « ouais, mais il y a des choses qu'on ne pourra pas changer ». Mmh. Et l'autre chose que ça veut dire aussi, c'est que tu peux choisir dans ta boîte des axes que tu décides de changer, mais pour avancer vite et être très efficace, il faudra que tu aies aussi la force de supporter des choses que tu pourras faire évoluer plus tard. Parce qu'un des défauts, quand tu es dominant ou que tu as un profil managérial, c'est de vouloir tout optimiser dans ta boîte en même temps. Et ça, c'est pas possible.
Il faut faire des choix.
Donc, il faut se choisir des grands axes. C'est temporaire. On avance là-dessus. Puis une fois qu'on a fait ça, on change de domaine et ainsi de suite.
Complètement.
Ah ouais, j'adore cette citation.
Je la mettrai dans les notes du podcast, comme d'ailleurs
le livre
de Tim Ferriss. Ben, écoute, s'il y avait quelque chose à refaire dans toute ta carrière, dans ta vie, c'est un peu large comme question, mais qu'est-ce que tu voudrais refaire différemment ?
Je regrette rien de ma carrière. J'aurais voulu me rendre compte peut-être un peu plus vite de l'importance du management. Et aussi, une autre chose dont on n'a pas du tout parlé, mais de l'importance d'être un bon vendeur. Pour moi, c'est un peu un truc que j'ai laissé de côté, auquel je croyais peu, et je me forme beaucoup là-dessus en ce moment, c'est la persuasion, la manière d'influencer les ventes, etc., etc. Je pense que c'est une compétence absolument primordiale pour un chef d'entreprise.
C'est clair. J'ai souvent coutume de dire que quand on est chef d'entreprise, en fait, on vend en permanence à tout le monde. On vend à ses clients, certes, mais en fait, on vend à ses fournisseurs parce qu'il faut parfois leur demander des services, qu'ils travaillent plus vite, qu'ils baissent les prix. Il faut vendre à ses investisseurs, il faut vendre à la presse, il faut vendre un peu avec tout le monde. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu.
C'est hyper important. Bon, je pense que toi, avec ton profil, ça doit
pas
être
vente,
un problème.
C'est un
Moi,
souci,
c'est une évolution qui s'est faite progressivement.
Moi, la Comment vente, Excuse-moi. C'est, j'ai plutôt un, je pense, un profil naturellement assez vendeur.
Ouais, c'est clair. C'est sûr. Et c'est ultra important. Et en fait, c'est comme le management. C'est pas quelque chose que tu as forcément naturellement, mais par contre, ça s'apprend parfaitement.
T'as des recommandations, d'ailleurs, de livres qui t'ont marqué ou de podcasts que t'écoutes sur le sujet?
Alors, non, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Il y a un podcast qui est assez extra que tu dois connaître, c'est Marketing Mania.
Alors, je suis passé dedans, donc je le connais, ouais, tout à fait. Ah, ouais, il est super.
Qui est très très bien parce que, en fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est, bon, les conseils qu'il donne sont très bons et puis j'aime beaucoup Stan. Mais il y a aussi le fait que je pense que lui, c'était pas trop un profil. Alors pourtant, il a démarré en faisant des choses sur la séduction, etc. Mais je pense que c'est pas un profil fondamentalement, c'est pas un mec qui
vend. Oui, je pense
qu'il
est plutôt introverti de base.
C'est pas le profil de...
Mais souvent, d'ailleurs,
c'est
comme en négociation, tu sais, je pense que et moi, en réalité, je suis mais je pense que je suis plutôt introverti en réalité. Je pense que les introvertis, comme ils sont assez empathiques, qui se mettent beaucoup à la place des autres, arrivent à être de très bons vendeurs et de très bons salespeople.
Voilà. Et donc, en fait, c'est une question d'apprentissage. C'est comme tout, il faut que tu apprennes. Et même les introvertis sont très bons managers aussi. Parce qu'ils ont une empathie, ils ont une empathie naturelle, mais par contre, ils se méfient beaucoup de leurs pulsions, de leurs sentiments, etc. Ils essayent de tout rationaliser. Et en fait, il y a un bouquin qui est sorti, zut, le titre ne me revient pas, mais justement sur les introvertis. Je l'ai plus en tête.
On en reparlera.
De le retrouver.
Écoute, ma dernière question, justement, on en parle un petit peu déjà. C'est sur les livres. J'ai une passion pour les livres. J'ai même maintenant un book club avec le gratin. Et donc, je demande à chaque fois, les livres que
Moi
tu
aussi.
Recommandes le plus autour de toi ou qui t'ont le plus marqué. Et ça peut être tout autant de la littérature que des bouquins de business, justement.
Alors, moi, il y a un bouquin qui m'a assez, qui a été assez fondamental pour moi, c'est Flo. Alors en français, c'est pas Flo le titre, c'est attends, je dois l'avoir là. Ça doit être un truc genre la psychologie positive. Enfin, le titre
D'accord.
est super nul, le titre
je
français.
Je connais pas,
le
tu vois.
France. C'est de Mihaly Csikszentmihalyi. Je sais pas si t'en as
Écoute,
déjà
le
parlé.
Le nom me dit quelque chose,
en
mais
fait,
je l'ai pas lu.
Alors je te l'épellerai pas parce que j'en suis incapable, mais c'est en fait ce qu'il dit, c'est il parle de l'expérience optimale, c'est-à-dire les conditions qu'il faut réunir pour à la fois être dans notre zone de plaisir et dans notre zone de compétence. Et il parle de 5 éléments que tu dois réunir, puis dans un autre livre, il ajoute un 6e élément. Et en fait, ces éléments, c'est avoir une cible claire, c'est-à-dire savoir vers quoi tu te diriges. Avoir le contrôle de tes actions, c'est-à-dire avoir le contrôle sur le comment tu vas le faire. Avoir un feedback permanent, c'est-à-dire qu'en permanence, tu sais les effets de ce que tu es en train de faire. Être concentré et avoir une adéquation entre la compétence que tu dois mettre en œuvre et le défi que ça représente. C'est-à-dire, si tu es trop compétent, tu vas t'ennuyer. Si tu n'es pas assez compétent, tu vas faire un burn-out. Et le dernier élément, c'est le pourquoi. Et ça a vraiment été pour moi un truc où enfin je comprenais, parce que tu sais, on est tous à la poursuite du bonheur, etc., mais il y a quand même une manière d'être très heureux, c'est de régulièrement avoir cette expérience optimale. Et ça s'obtient dans le sport, ça s'obtient dans le travail, ça s'obtient dans les relations avec les autres, etc. Donc c'est vraiment un bouquin facile à lire et qui est très sympa.
Écoute, c'est intéressant. Non, mais j'ai retrouvé le... Mais c'est imprononçable, hein. Mihaly... Csikszentmihalyi. Je le mettrai dans le podcast. En tout cas, merci beaucoup pour la recommandation parce que c'est typiquement le genre de sujet qui m'intéresse beaucoup. Et j'avais lu des livres un peu sur ce type de problématique, mais vraiment dans le milieu du sport. Et donc, je trouve que c'est intéressant de l'appliquer aussi au monde professionnel, quoi.
Ouais, c'est super intéressant. En plus, tu vois, ça relativise quand tu veux motiver tes collaborateurs. Vraiment, une bonne question à te poser, c'est est-ce que je coche les 6 cases, quoi, avec mes collaborateurs.
Hyper intéressant.
Après, bon, moi, j'ai été très branché pendant un moment sur les bouquins d'organisation. Donc, tu connais Getting Things Done de David
Alors,
Allen.
Alors, je le connais, mais je ne l'ai pas lu. Mais je sais que c'est une grave erreur, bon, mais je vais peut-être la rattraper.
C'est un livre fondamental pour moi sur la manière de s'organiser. Maintenant, je trouve que c'est un livre qui est... Enfin, c'est une technique qui est un peu compliquée. Un peu, je dirais, moi, j'ai développé ma technique à côté, mais je me suis très, très fortement inspiré de ce qu'il a fait. Et il y a un autre bouquin qui est peut-être plus facile à aborder pour des gens qui sont moins rigoureux et qui veulent quand même s'organiser très, très bien, qui s'appelle Zen to Done.
Zen to Done, d'accord.
Ouais, donc ZTD. Et l'auteur, c'est Léo Baboba.
Je chercherai ça, je le mettrai dans les notes. Sur le site du Gratin.
Et le titre français, il est traduit en français, mais alors le titre français est pourri. Alors je l'ai sur Audible parce que moi c'est un bouquin que j'avais même résumé, j'avais résumé pour moi. Après, il y a un livre que j'aime bien, mais alors on est vraiment dans l'optimisation. C'est le 20-80 de Richard Koch.
Je sais pas si tu as lu.
Où il te dit. Alors après, ça a ses limites. Hein. Et après, malheureusement, j'ai lu plein de bouquins sur le management, mais je dirais que j'en ai pas un qui m'ait dit ah voilà là il y a
le tien
tout.
Peut-être.
Alors non, alors je pense que dans le mien il y a pas forcément tout, mais celui que j'ai le petit livre que j'ai écrit qui s'appelle Le Manager Essentiel, c'est plutôt la présentation des 4 outils fondamentaux du management.
C'est déjà une très bonne base que je vous invite à découvrir, messieurs dames.
Ouais. J'aimerais bien aller plus loin, hein. J'en ai un en projet, mais alors là, qui s'appelle Mes principes de management, où je vais plus loin, mais pour l'instant j'en parle dans les podcasts.
C'est déjà pas mal du tout. Écoute Cédric, merci pour tout ton temps, j'ai appris plein de choses, je pense que ce podcast, enfin j'espère qu'il a été utile pour beaucoup des auditeurs du Gratin. Si on veut te retrouver, donc déjà on peut éventuellement commander ton livre que je vais mettre dans les notes.
Ouais, s'il est gratuit, donc voilà. C'est facile.
On peut ensuite te retrouver sur le site de l'outil du manager, des outils du manager, je pense, ouais, que je mettrai en lien. On te retrouve aussi donc, via le podcast, que je mettrai aussi en lien.
Ouais,
et est-ce
fait.
Que sinon, on peut te faire un petit coucou quelque part sur le monde merveilleux du web?
Alors, je suis sur LinkedIn, mais je donne aussi mon adresse. Mon adresse, c'est Cédric. Ouais. @outildumanager.com avec un S à outils.
Bah écoute, messieurs, dames, je mettrai ça dans les notes et comme ça, si vous voulez contacter Cédric, vous savez où le faire.
Je réponds à tous mes mails, mais pas toujours dans la journée.
Écoute, j'espère que tu ne vas pas en avoir trop. Voilà.
On va voir. On gérera. Ce qui est prévu assez vite, c'est qu'on ait aussi un forum d'échange pour que les managers puissent échanger entre eux de manière confidentielle et,
ouais, c'est important.
Et s'entraider.
Hyper intéressant. Bah écoute, merci pour tout Cédric, je te souhaite...
Bah, je te remercie infiniment parce que pour moi c'est important aussi, tu m'as donné cette occasion de diffuser le message qu'on peut obtenir efficacité et dans le respect de ses collaborateurs et que c'est pas très compliqué à mettre en œuvre, et pour moi c'est vraiment ce qui porte outil du manager.
C'est, en tout cas je trouve que c'est très inspirant parce que effectivement on a l'impression que c'est assez simple, et quand tu le dis comme il y a des outils pratiques, je trouve que ça donne vraiment envie de s'y mettre quoi. Donc merci à toi et bravo.
Ouais,
et puis je te dis à bientôt.
Je te remercie Pauline. Au revoir.
Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, bah c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du6gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram, qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc, sous le pseudo Pauline Legnaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi, et je sais que c'est pénible à faire, mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute, et avoir des notes, en fait, permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter le gratin, à faire partie de cette communauté, bah, c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes. C'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes. Donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand, grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.